Bienvenue à ce troisième discours. Et je vais continuer à tricoter un petit peu dans les mêmes zones, dans les mêmes thèmes. Et me dire que c'était tellement vaste que de toute façon, c'est pas compliqué. Et là, je voudrais repartir avec vraiment dans notre pratique de méditation. En fait, ce qui se passe, donc je pense que la majorité d'entre vous seront d'accord avec moi, c'est que notre attention, par exemple, d'être avec la respiration, mais dans la réalité, en fait, on est très souvent avec la pensée. Peut-être même beaucoup plus qu'avec la respiration. Et ce qui se passe, en fait, si on y regarde bien, c'est que même quand on est distrait, on est plus conscient de ce qui se dit dans notre tête que dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que même quand on est distrait, la lumière est un peu allumée. Parce qu'on est là avec notre attention, notre pratique, on était juste avec la respiration. Ça glisse, hein, quand on part vers la distraction, on ne s'en rend jamais compte, comme quand on s'endort. On se dit pas, tiens, je commence à partir vers la distraction, là, tiens, là, maintenant, je suis complètement distrait. Et c'est pas possible, ça. C'est pas ça qui se passe, on glisse. Mais quand même, quand on quitte et qu'on revient à la respiration, si on veut, on peut savoir à quoi on pensait, on peut même se rappeler la chaîne de pensée, ce qui a entraîné ça, ou tel son qui a généré juste une pensée, et puis cette pensée a amené une autre, et puis une autre, et puis une autre, et parfois ça fait une longue chaîne de pensées comme ça. Mais on a plus de clarté sur la pensée. Et quand on pratique la méditation pendant des années, on commence à bien voir et bien comprendre le fonctionnement de la pensée. On est beaucoup plus familier avec le fonctionnement de la pensée, comment ça impacte notre émotionnel, comment ça impacte notre décision, comment se prennent les décisions, et aussi le fonctionnement et aussi beaucoup le contenu. On est de plus en plus conscient de ce qui se dit dans nos têtes pendant la pratique, mais aussi la lumière peu à peu reste allumée en dehors. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que une grande partie de nos pensées, il y a des pensées qui sont là pour de l'organisation et des choses comme ça, mais une grande partie de nos pensées sont... Il y a une grande activité autour de construire une image de nous-mêmes. Très grande activité autour de construire une image, de construire une personnalité, de construire, de peu à peu travailler une manière de se représenter soi-même. Dire je suis ceci, je suis cela. Alors au départ c'est je suis né ici, j'ai fait cela, ça c'est mon métier, ça c'est... Mais peu à peu on ajoute ça c'est mes qualités, ça c'est mes faiblesses, et puis j'aimerais être plus fort en ceci, et je développe cela, et par contre moi je suis bon là-dedans, là je suis pas très bon, et puis après ça, cette image, on se dit, tiens comment est-ce que lui me voit, comment est-ce qu'elle me voit, cette image elle change en fonction de notre état d'esprit, parfois on est dans un bon état d'esprit, on a une bonne image de nous-mêmes, parfois l'image de nous-mêmes elle est pas très bonne parce que... Voilà, on est dans un moment de fragilité ou quelque chose comme ça. Mais cette image, en fait, quand on regarde, il y a une activité énorme du mental qui est investie dans le fait de la fabriquer, de la maintenir, parce qu'elle ne tient pas toute seule, de la fabriquer, de la maintenir, de la développer, de lui changer de direction. C'est un peu comme si on fabriquait tout le temps des vêtements pour notre âme, en fait. On est tout le temps, ou en tout cas très très souvent, impliqué dans la fabrication d'une identité. Et cette identité, elle est, ce processus, en fait, il est extrêmement important. Il commence, j'imagine, peu après la naissance, je sais pas exactement quand, mais peu à peu, l'enfant va commencer à dire, ben, moi je suis fort là-dedans, moi je suis pas fort là-dedans, et peu à peu, il se crée une identité. C'est-à-dire des limites et des endroits où il se sent en confiance. Et puis là-dessus se rajoute, donc ça c'est déjà un boulot énorme, et là-dessus se rajoute une estimation de soi, je suis meilleur. Mais en fait, il se rajoute en fait ce qu'on appelle l'ego, mais c'est un terme très très vaste, qui en fait, là, peut-être comment je pourrais le définir, c'est cette envie, c'est cette comparaison constante de soi aux autres, et cette envie d'être spécial en fait. d'être meilleur qu'eux, ou moi j'ai vraiment pas de chance dans ma vie, ou alors il y a un ego plus peut-être un peu victime, ou un ego plus héroïque, ou quoi que ce soit, mais c'est ce besoin d'être spécial qui est tout le temps là et qui fait énormément de boulot, qui va décider un petit peu quelle action on va faire, comment on va essayer de paraître, comment on va essayer de se tenir, ce qu'on va dire, ce qu'on va pas dire, nos choix. Donc c'est immense quand on est en méditation de voir en fait cette activité. Et on dit que le cerveau en fait traite des je crois que c'est plusieurs millions d'informations à la seconde. C'est fantastique parce qu'il crée tout un monde en fait. Il crée tout un monde. On le parlait un petit peu de la perception, les vibrations qui arrivent et le cerveau nous donne une image. Ça c'est une partie de l'activité, mais au niveau de l'image de soi, il y a toute une création d'une identité et c'est très nécessaire pour pouvoir fonctionner dans ce monde. C'est nos vêtements pour sortir. On a notre identité. Parfois, elles ont des différences. On n'a pas la même identité pour aller au travail que pour être avec notre amoureux ou notre amoureuse. On n'a pas la même identité en tant que papa que quand on va chez nos parents. Voilà. Et donc toutes ces identités là, elles sont très travaillées. Et puis on travaille bien sûr aussi des images pour les autres. De chaque personne, nos amis, nos conjoints, nos enfants et tout ça, on les synthétise dans une image. C'est-à-dire qu'on n'est pas en contact directement avec eux quand ils rentrent, juste leur énergie. On les rencontre à travers l'idée qu'on a d'eux, avec le temps qui s'est développé. Et tout ça, donc, c'est une activité, parfois c'est choquant, en fait, de voir que l'esprit est tout le temps, très souvent en tout cas, impliqué dans ce genre d'activité. C'est très nécessaire, on a besoin de ces vêtements pour que l'âme puisse sortir dans le monde. C'est ce qu'on appelle une réalité conventionnelle. Donc, dans la réalité conventionnelle, je suis Denis, j'ai un métier, j'ai ceci, cela, et puis mes qualités, mes défauts, et tout ça. Et si ces images ne sont pas bien faites, alors on rentre en problème, on a des conflits, on a beaucoup de conflits avec nous-mêmes, ça ne fonctionne pas bien en fait. Cette incarnation dans ce monde, ça ne fonctionne pas bien. Ça clash un peu partout. Donc cette activité, je pense que c'est très important qu'on ne dise pas toutes ces pensées, elles devraient disparaître, on devrait juste être. Non, on a besoin d'être ceci, on a besoin d'être cela pour pouvoir vivre dans le monde. C'est pas juste être. Parfois on entend ce discours dans le monde de la spiritualité, juste être. Je pense que c'est très juste, mais on ne peut pas juste être. Il faudrait avoir de temps en temps la capacité d'être, de juste être. Mais c'est pas suffisant, on peut pas être fonctionnel. Et un jour en Inde, j'étais invité dans la maison d'un grand joueur de tabla qui s'appelle Kishan Maharaj et qui donnait un concert donc c'est un joueur de tabla et il faisait un solo de tabla acoustique, donc non amplifié, et il commençait, c'était dans une pièce un peu comme ceci, et il commençait en fait par un discours, il parle toujours, même pendant, il s'arrête pendant leur solo, il parle, il dit un truc, puis il recommence, il s'arrête, en fait, c'est de l'impro jusque-là en fait. Ça peut même s'arrêter, dire un truc, parler des dieux, parler de son prof, ce qu'il disait, tout ça, et puis hop, on recommence à jouer un peu, et puis ah oui, ça me fait penser que... Et donc là, un moment, je ne sais plus si c'était au début ou si c'est pendant son solo, mais il disait que, en fait, depuis que la musique était amplifiée, la qualité d'attention avait diminué. Et ça m'est resté, ça. Donc il a connu la musique non amplifiée, et puis là il parlait depuis que la musique est amplifiée, la qualité d'attention a diminué. Et en fait, il disait aussi que avant, les ragas, donc j'ai expliqué un peu ce que c'était un raga, c'est juste une échelle de notes sur laquelle ils improvisent, un raga, donc un morceau, pouvait durer jusqu'à 4 heures. Et que maintenant, c'était plus possible, parce que la qualité d'attention avait diminué, mais aussi la patience. Et ça, il attribue ça à l'amplification. Je ne sais pas si c'est ça, ou si l'amplification est venue parce que la qualité d'attention diminuait. Parfois, on ne sait pas dans quel sens c'est arrivé. Mais en tout cas, il faisait un lien entre le fait que la musique était maintenant amplifiée et le fait qu'il y avait une moindre qualité d'attention et une moins grande patience. Et je pense qu'en fait, on amplifie la musique parce que on a du mal à vraiment l'écouter. Et du coup, comme ça, on peut rester un petit peu dans nos pensées et en même temps quand même l'entendre. Parce que quand une musique, donc les instruments classiques indiens, c'est des instruments qui sont fermés. Les tablas, les percussions, c'est haut comme ça. Et c'est fermé, il n'y a pas de trou pour que le son sorte. Pareil, le sitar, il n'y a pas de trou pour que le son sorte. C'est une calebasse qui est fermée. Et du coup, c'est des instruments qui résonnent très longtemps, mais qui ne vont pas fort. Et les Indiens jouent beaucoup sur la résonance. Donc quand ils jouent du sitar, ils vont par exemple gratter une corde et puis ils vont la faire tourner sur la frette et le son va avoir un mouvement qui peu à peu disparaît dans le silence. Et ils travaillent le son et tout le monde essaie d'entendre. Tout le monde tend l'oreille pour essayer d'entendre jusqu'au dernier moment ce qu'il fait avec. Et parfois on voit que lui, il fait encore quelque chose et nous on ne l'entend plus. Et du coup, ça nous absorbe complètement, complètement. Pour entendre ça, pour le suivre jusque là où il va, on a besoin d'être totalement attentif. Et là, une pensée, une seule pensée, et c'est raté. Et la phrase suivante ne sera jamais la même, parce que c'est pas répétitif. C'est une improvisation évolutive qui change tout le temps. Il n'y a pas la répétition. Donc chaque moment raté est perdu. Qui crée une atmosphère dans laquelle il y a une qualité et une intensité d'écoute. J'en ai vu pas mal des concerts en acoustique. Une qualité et une intensité d'écoute qui ne souffre pas la distraction. Alors bien sûr, il y en a, mais c'est juste des petits éclairs. Quand on aime la musique, quand on sait qu'on a la chance de voir un grand musicien juste en face, ou quand on sent que le gars qui est là en face, c'est magnifique ce qu'il fait, à ce moment-là, aucune histoire ne peut nous prendre parce qu'on veut entendre ce qu'il exprime là. Et à ce moment-là, il y a un grand silence dans l'esprit. Toute l'attention est à l'écoute. Et quand ça s'arrête, après, c'est une musique évolutive qui commence très très doucement et puis qui finit très très vite. Et quand ça finit dans cet univers de sons, il y a une palette de sons extraordinaire avec toutes les cordes sympathiques qui résonnent par sympathie sans être grattées et tout ça, ça fait des sons dans tous les sens. Et quand ça s'arrête, c'est un peu brutal et alors là, tout le monde est un peu sonné. Et là, on se demande un peu ce qui s'est passé. Il faut un temps pour revenir, peut-être comme parfois d'une méditation profonde. Il faut un temps pour revenir. Il faut un temps pour revenir à soi. Il faut un temps pour que l'identité revienne. Parce que là, il n'y avait plus personne. Là, il y avait une unité avec la musique. Il n'y avait plus quelqu'un qui l'écoutait. Il n'y avait plus de passé. Il n'y avait plus d'histoire. Il n'y avait plus la personnalité. Il n'y avait plus l'ego. Il n'y avait plus l'identité. Il n'y avait plus l'identification. Il y avait juste le son et la musique. Mais pour ça, il faut pouvoir poser sa tête. Et il faut se donner le droit de poser sa tête. Et pour se donner le droit de poser sa tête, parfois c'est difficile. Surtout, comme j'ai essayé de l'exprimer hier, chez nous, dans notre culture, où il y a une telle emphase sur le fait de réussir, le fait d'être quelqu'un, le fait de... Même des notions comme s'épanouir, fleurir. Hein, une vie, quelqu'un qui s'épanouit, quelqu'un, la notion, toutes ces notions de réussite. Ce n'est nulle part... D'après un enseignant que j'aime beaucoup, il me disait que ce n'est nulle part dans les textes du Bouddha, par exemple. C'était un objectif dans la vie qui n'existait pas. De s'épanouir, de fleurir. Ce qui existait, c'était la dissolution. De devenir un avec le tout. Ça, c'était le but. Mais pas individuellement de fleurir et de s'épanouir. Mais nous, devenir un avec le tout, ça veut dire quoi dans notre contexte sociétal? Ça n'a pas sa place, ce n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est pas dans les valeurs qu'on reçoit. Parce que si on est encore, si on est un corps, ça veut dire quoi devenir un avec le tout, fusionner notre corps avec quoi? Ça n'a pas sa place dans notre cosmogonie, dans notre compréhension de la vie. On ne peut pas. Du coup, ce n'est pas un objectif, c'est pas quelque chose qui est. Ce n'est pas un concept ou un but qui est envisageable. Nous, notre but, c'est de individuellement devenir quelqu'un, de fleurir, d'être en sécurité, de réussir, d'être heureux. On n'a pas plus que ça, en fait, qui nous est proposé ou offert. Alors si, on entend parler, il reste de la spiritualité dans notre monde, mais elle est en déclin. Comme disait Nietzsche, Dieu est mort. Hein, l'échec complet de notre église chrétienne, l'échec total de notre église chrétienne, a laissé un vide qui n'a jamais été comblé et que la matérialité remplit, comme si elle allait pouvoir combler la spiritualité. Et on en est là où on en est, on voit bien où ça mène. À cette recherche de complétude à travers la matière où on bouffe la planète. Quand on rentre dans ces endroits d'attention, quand on est plus que attention, quand il n'y a rien d'autre, quand la totalité de l'attention est portée sur une chose qui est autre que moi et mon histoire, moi et mon passé, quand l'attention est complètement dédiée, et ça arrive quand on fait vraiment ce qu'on aime, l'attention est complètement à ce qu'on aime, ou quand il y a un danger, et du coup l'attention est complètement là où il se passe le danger, par exemple il y a un accident sur la route, toute l'attention est là, il n'y a plus mon histoire, ma grand-mère, et toutes ces... il n'y a plus rien, il y a juste, et là le temps se distend. Pareil dans un concert de musique classique, quand toute l'attention est là, le temps en fait change, la perception du temps, la notion du temps, le temps, on pourrait même dire disparaît. C'est pour ça qu'après ça, on est tout sonné et qu'on revient, parce qu'on revient à soi et on revient à notre histoire. Et notre histoire a besoin d'un temps pour exister. Un passé, des projets, un futur. Il n'y a pas de temps sans identité. Ou en tout cas, il n'y a pas d'identité s'il n'y a pas de temps. Il faut un temps pour que notre identité existe. Avec un passé où on est né, ce qu'on a fait, tout ça. Et donc, dans les moments où notre attention est complètement à son objet, l'identité n'apparaît plus et le temps n'apparaît plus. Et alors c'est possible, un raga de 4 heures. Parce que ça ne fait rien dire 4 heures. On dira 4 heures après quand on en sort et qu'on regarde la montre et qu'on fait « Waouh, ça fait 4 heures !» Mais dans le moment, ce n'était pas 4 heures. Après ça, quand on revient à notre esprit historique qui regarde les causes, les effets, les débuts, l'histoire, à ce moment-là, tout ce système, ce fonctionnement de la pensée qui inscrit chaque chose sur la ligne du temps, va dire « Ouh, il s'est passé 4 heures ». Mais dans le moment où il n'y avait plus personne, dans le moment où il n'y avait que pure attention, le temps n'existait pas. Il sera mesuré quand on en sort. En méditation, on peut sentir que plus l'esprit quand l'esprit ralentit, le temps change, la perception du temps change. Quand l'esprit est paisible et posé, une méditation de 45 minutes, c'est court. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on n'aurait pas envie que le bol sonne. Quand l'esprit est très actif et qu'il travaille du coup, pas que, mais quand même beaucoup en partie à la construction de notre identité, appliquée dans l'ego, dans ce qu'il faudrait changer, dans ce qu'il faudrait faire, dans ce qu'on aimerait, dans nos peurs et tout ça. À ce moment-là, le temps, il est bien là. Il fait partie de l'histoire. Donc le temps, il fluctue au fur et à mesure que notre personne construite est proéminente ou de plus en plus ténue. Et on peut voir cette échelle dans la méditation. On peut voir les moments où on est très là, où le jeu, la personne est très là. Il y a je médite, j'essaye, je suis frustré, ça ne marche pas. Ou ça y est, là ça vient un petit peu. Ou alors toutes les distractions qui durent très très longtemps. On sent la personne est là, la personnalité, ce qui s'est construit depuis notre naissance, ce à quoi on a travaillé depuis si longtemps, ce qu'on a peur de lâcher aussi. C'est là, c'est bien là. On y bosse là, on y bosse dessus. Et là, le temps, il est bien là aussi. puis il y a des moments, des petits moments, quand cet esprit se pose, quand ce qui est nécessaire, quand cette activité nécessaire pour avoir une identité ralentie, ce sens d'identité devient moins proéminent, peut devenir encore moins proéminent, la sensation d'être présent augmente, il y a plus de conscience, il y a plus de perception, il y a plus de à un stade, il y a plus de perception de ce qui se passe autour de nous, et puis ça se pose encore, ça peut se poser encore, et à un moment, il va rester une sensation d'être présent et de percevoir tout ce qui bouge. Un son, il est entendu, une douleur dans le dos, elle est ressentie, une pensée qui passe, elle est vue, la respiration est là, elle est connue. Et il y a quelque chose de très calme, qui ne bouge pas, et dans lequel les choses se passent. Les choses se transforment. Au début, quand il y avait des pensées, on ressentait « je pense », et puis à un moment, on ressent plus « je pense », on ressent « il y a une pensée ». C'est plus du tout pareil. C'est plus « je qui pense ». Il y a une pensée, il y a un son, il y a une sensation physique. Les choses vont et viennent, et autour des choses, il y a de l'espace. De temps en temps, un petit peu, on peut sentir. Certains d'entre vous voient cette expérience, d'autres, c'est un indicateur qui vous permettront de la remarquer. De temps en temps, on connaît tous ça, mais pas consciemment forcément. Mais rendons-le conscient. De temps en temps, l'esprit se pose, il y a moins de personnes, et à ce moment-là, il y a une sensation d'espace. On n'a plus l'impression que nous, on est dans les choses, mais que les choses sont en nous. Avoir une sensation d'être assez vaste. Et il y a une sensation, à ce moment-là, il peut y avoir, à un certain, c'est comme une échelle, à un certain endroit de l'échelle, il peut y avoir une sensation, je suis présent, et il n'y a plus beaucoup de perception. Il ne se passe plus grand-chose. Je suis présent, je sais que je suis présent. Et là, cette sensation, je suis présent, un peu la méditation guidée que j'ai guidée ce matin. La sensation est vraiment « je suis présent » et pourtant, elle est questionnable. On peut se demander qui est le « je » qui est présent. Je suis présent. Le fait est qu'il y a présence, mais qui est le « je » qui est présent ? Il y a conscience, mais est-ce ma conscience ? Si c'est ma conscience, alors la conscience de qui ? Ce genre de questionnement, pour certains, ça peut sembler comme « oulala, là c'est pointu, c'est compliqué », mais ce genre de questionnement peut déconstruire cette sensation « je suis présent » et laisser juste une sensation « présence », conscience. Il y a conscience. Et c'est plus forcément ma conscience. La conscience est là, la conscience est présente. Ce n'est plus, et dans la sensation, ça change quelque chose. C'est plus la même expérience. Quand j'ai l'expérience « je suis conscient », il reste l'expérience du « je ». Dans cette autre vision que je propose, qui est une autre manière de voir la même expérience, c'est de se dire, de réaliser qu'en fait, peut-être, cette conscience n'a rien à voir avec « je », avec la sensation « je ». Peut-être il y a juste conscience. À ce stade, puisque la science est notre culture, et je pense qu'il y a, il y a beaucoup de beau, hein, je ne voudrais pas qu'on pense que je jette des pierres à la science. Ce qui me dérange dans la science, c'est son omnipotence, c'est le fait qu'elle cette prétention à être le seul chemin de connaissance. Mais la science est j'adore. Là, j'en ai pas parlé dans les discours parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais en fait, c'est vraiment un chemin d'exploration important pour moi dans ma spiritualité. Mais donc là, à ce stade, scientifiquement, personne ne peut affirmer que cette présence qu'on ressent quand on est bien attentif, cette attention elle-même, est un produit de la personne. On n'est pas à même de le dire, on n'en est pas encore là. On est encore un peu à la préhistoire de l'humanité aussi, même si on ne s'en rend pas compte. On n'a pas encore vraiment compris grand-chose. Mais là, à ce stade, personne n'est capable d'affirmer, n'a le droit scientifique d'affirmer que la conscience est un produit du cerveau, ou que la conscience est un produit de la matière, ou c'est une théorie. Et il y en a d'autres. Et en fait, quelque part, on s'en fout. Ce qui est important, c'est si je vois cette conscience, je suis là en méditation, les choses sont bien posées, des choses vont et viennent, et je me sens conscient. Je suis conscient et je sais que je suis conscient. Qu'est-ce qui se passe dans mon expérience si j'interprète ce moment en disant « je suis conscient » Pas forcément, c'est même pas besoin d'avoir une pensée. On ressent « je suis conscient ». C'est pas une pensée « je suis conscient ». On ressent « je suis conscient ». Et qu'est-ce qui se passe si on ressent? C'est la conscience, et non pas ma conscience. Ça change notre expérience. Essayez-le. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, si ça a un sens pour vous ce que je suis en train de dire, essayez de transformer « je suis présent » ou « je suis conscient » par « la conscience est là, la présence est là ». On pourrait voir la conscience comme la lumière qui passe à travers les vitraux d'une église. C'est elle qui donne toute la palette de couleurs de l'individualité de chaque vitrail, mais la lumière n'appartient pas au vitrail. Et peut-être que la conscience est quelque chose qui passe à travers chaque construction individuelle que nous sommes, mais elle n'appartient pas à cette construction. Juste une image, on a besoin d'images. Et au moment où il y a conscience dans notre expérience de méditation ou autre, au moment où il y a conscience, à ce moment-là, on peut se dire, elle est là. Et réaliser, elle est là, la conscience. Et du coup, c'est mystérieux. C'est très mystérieux. Et on sait qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est de nous ou si c'est nous qui sommes dedans. On ne sait pas si c'est de nous ou si c'est quelque chose qui passe à travers nous. Et si on la voit comme quelque chose qui passe à travers nous, qu'est-ce que ça change? Isarayana Tamaraj, que je cite souvent, donc, parce que comme je vous le disais, je l'ai beaucoup étudié, je l'ai beaucoup lu, prenez un jour cet exemple, il disait, alors je ne sais plus exactement ces termes, mais je me rappelle de l'exemple. C'est comme nous et notre histoire et notre identité, c'est comme si on était une feuille de papier. Et les moments de présence, le moment présent où il y a présence, c'est comme un trou dans la feuille. Il est dans la feuille et pourtant il n'appartient pas à la feuille. Quelque chose passe. Alors quand on est en méditation et qu'on a un moment de non-distraction où on sent cette atmosphère, cette qualité, cette intensité, cette spécificité de l'attention qui est là, d'un état attentif, cette attention, si on la considère comme n'étant pas forcément mon attention, à ce moment-là, c'est « waouh ». C'est ça qui m'intéresse. C'est la familiarité avec ça qui m'intéresse. C'est pas forcément de le comprendre intellectuellement qui m'intéresse, mais c'est de le vivre, de le voir, de le savoir étant au cœur de moi-même. Parce que, et ça, à vous de vérifier, je le dis comme une affirmation, mais pour moi, cette présence, cette attention est ce qui est le plus fondamental en moi-même. Ma sensation d'exister vient de là. Et c'est énorme à dire, parce que ça voudrait dire qu'éventuellement ma sensation d'exister ne viendrait pas de mon individualité. C'est-à-dire que tout ce qui a été construit dans le temps depuis ma naissance pourrait se transformer sans que cette sensation de présence change. Donc cette présence serait plus moi que tout ce que je crois être moi. Et l'identité, qui on est vraiment, est un des grands mystères. Et quand on sait qu'on ne sait pas qui on est, alors là déjà, en fait, il faut toute une vie pour savoir qu'on ne sait pas qui on est. Parce qu'au départ, quand on est bébé, on a besoin d'apprendre une identité, des identités même. Et des identités qui soient fonctionnelles, des beaux vêtements pour l'âme, pour qu'elle puisse sortir dans le monde. Mais à un moment, on a peut-être trop cru qu'on sait ça qu'on était. Or, on est ça aussi dans le moment où on est habillé en ouvrier, en peintre, ou en enseignant, ou en quoi que ce soit. Mais quand on est nu, c'est pas ça. On n'a pas besoin d'être ça tout le temps, on n'a pas besoin de tout le temps maintenir ses identités. Et si on veut, par exemple, à un moment, si on veut vraiment danser, on ne danse pas avec une identité. On ne peut pas danser avec une identité. Vraiment, la danse se produit quand il n'y a plus personne. Quand il n'y a plus que l'écoute. Et c'est pour ça, quand on aura la musique, quand il y aura le set de musique, même si la musique est suffisamment forte, il faut quand même l'écouter. Il faut rentrer dedans. Il faut se perdre dedans. C'est ça. Il faut pas juste l'entendre, il faut vraiment l'écouter. Et quand on l'écoute, c'est cette écoute qui fait le silence de l'esprit. Et c'est ce silence de l'esprit qui fait qu'il n'y a plus la personne. Parce que l'esprit ne la construit plus, cette personne. Et à ce moment-là peut se produire la danse. On ne peut pas danser avec la personne. On ne peut pas danser depuis « je suis ceci et je suis cela ». Sinon, on est un peu concerné par comment les autres nous regardent, et puis les petits pas qu'on fait, on sent bien qu'on a du mal à rentrer dedans, en fait. Parce qu'on est encombré avec cette personne, elle n'a pas besoin d'être là, cette personne. Et pour sortir de cette personne, dans un moment de danse, c'est la musique qui nous permet de sortir de cette personne. C'est elle l'objet qui nous absorbe complètement, qui fait qu'il y a plus de place. Toutes ces constructions ne sont plus alimentées parce que notre attention n'est plus dirigée vers là. Vous vous rappelez? Cette attention qui donne vie, eh bien cette identité a besoin de notre attention pour exister. Et comme dans notre monde, il y a une énorme emphase sur l'identité individuelle, notre attention est tout le temps prise dedans. Et c'est un peu une de nos grosses problématiques. Et du coup, on a été obligé de monter le son, en essayant de ressortir la pauvre petite attention qui est complètement coincée dans cette identité, parce qu'il faut qu'elle reste là, parce que c'est là que ça se passe. C'est là qu'on va trouver le bonheur et nulle part ailleurs. C'est la seule réalité qui existe. Alors l'attention, il y a tellement d'importance, on ne peut pas lâcher, on ne peut pas laisser cette identité partir. On a tellement travaillé dessus, notre bonheur dépend tellement de comment elle est faite et de comment elle est belle et de comment elle est fonctionnelle, qu'on ne peut pas libérer l'attention de là. C'est trop dangereux. Alors on monte le son, comme ça on peut quand même garder un petit contact avec ce travail, ce tricotage permanent. Et quand même encore entendre un peu la musique, et du coup le corps va quand même encore un peu bouger. Et puis si on n'arrive pas vraiment à rentrer dedans, à ce moment-là, ben on va prendre un petit cachet. Ça aide aussi. Et du coup, c'est bizarre, moi je me rappelle ma première expérience avec... j'ai eu deux expériences avec des extasies, mais il y en avait une seule qui était vraiment révélatrice. C'est après cette expérience-là que je suis parti en Inde, en fait. Parce qu'il n'y avait plus personne. En deux, trois heures, il n'y avait plus personne. Il y avait une espèce de sensation de communion avec tout. Et il n'y avait plus cet isolement d'être pris dans mon identité. Et il n'y avait plus toutes ces constructions. Et de temps en temps, qu'il y avait des pensées, elles venaient complètement ailleurs que de moi. Et ça a été une soirée où il s'est passé des choses dans cette soirée. Je l'ai déjà raconté dans un discours. Là, on n'a pas vraiment le temps, mais des choses qui m'ont vraiment montrer à moi-même le potentiel humain, en fait, ce que j'étais quand toutes ces limitations, parce que notre personnalité, Krishnamurti disait, la personnalité, c'est l'ensemble de nos limites. Il était toujours un peu le cassant, Krishnamurti. Mais bon, là, je voyais ce que c'était de ne plus avoir ces limites de ma personne. Et j'ai toujours eu énormément de gratitude par rapport à cette expérience, et j'ai toujours eu énormément de gratitude de voir aussi que ce n'était pas pour moi un chemin de réalisation de prendre de l'ecstasy. C'est-à-dire que cette expérience, pour moi, elle était clairement, indiscutablement, hyper authentique. Peut-être que très certainement la substance chimique avait permis une espèce de, je sais pas quoi, déconnexion de mon identité ou un truc comme ça, qui faisait que subitement il y avait beaucoup d'espace et beaucoup d'amour qui sortait par tous les trous. Mais il y avait plus cette constante obnubilation de ma personne que j'avais même pas remarqué en fait. Mais dès que ça s'arrête, c'est comme quand le frigo s'arrête, ça fait ah. Oh. Et puis là, en fait, c'est... Mais j'ai aussi eu cette grande chance de tout de suite savoir que ça m'a donné la foi. Ça m'a donné la foi, c'est pour ça que je suis parti en Inde, c'est pour ça que je médite toujours, je suis sûr. Parce que là, j'ai eu un réservoir de foi immense. Mais par contre, et après cette foi, c'est aussi rempli d'autres manières. Mais par contre, j'ai eu aussi la chance de voir que c'est pas en en prenant plus que ça va marcher, là. C'est pas en répétant cette expérience encore et encore et encore et encore, parce que je connaissais mes copains aussi, je les avais vus un peu, et je voyais que ça menait pas forcément quelque part, mais aussi parce que je comprenais que que le chemin était un chemin de détachement et que là j'allais être attaché énorme à ces cachets. Mais donc quand on n'arrive plus à déconnecter de la personnalité, eh ben à ce moment-là on peut plus danser. On ne peut plus danser dans aucune des beautés de la vie. On est tout le temps, quelque part, au moins à l'arrière, préoccupé par notre image, ce que les autres en pensent, ce que lui a dit, ce que ceci. Mais j'arrive pas à le mettre en mots, mais vous voyez bien la complexité dont je parle. Le nuage, cette espèce de nuage de complexité, d'une création mentale. Ce qui est fou, c'est que, en fait, c'est à la fois c'est nécessaire pour fonctionner dans le monde et c'est super imaginaire. C'est un travail de la mise en forme de notre expérience d'être pour pouvoir fonctionner dans le monde est un travail de la logique et de l'imagination. Constamment, la logique et l'imagination essayent de donner un sens à notre expérience d'existence. Et on se crée une forme, une idée de nous-mêmes. Une image intérieure de qui on est, des images fluctuantes, toujours en chantier, toujours en chantier. Et elles sont importantes, ces images, et on doit les faire belles, et on doit en faire faire des images dans lesquelles il y a de la place, en fait. Et de temps en temps, on doit aussi être capable de laisser les images de côté. C'est des grandes questions. Est-ce que quelque chose de nous-mêmes existe en dehors de notre histoire? Est-ce que quelque chose de nous-mêmes a toujours existé indépendamment de l'histoire? Nous, en Occident, la tendance est de dire que non, que notre histoire commence à la naissance et finit à la mort. La moitié de l'humanité pense que oui. Qu'est-ce que ça change, en fait? De nouveau, pour moi, ce qui n'est pas important, c'est de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais quand on se voit comme un être fini et que la totalité de ce que je suis est le fruit de mon évolution, de la totalité de ce que je suis est la, c'est la somme de l'endroit où je suis né, des expériences que j'ai vécues, des choses que j'ai apprises, de la famille dans laquelle j'ai grandi, de toutes les expériences. Est-ce que je suis, c'est la somme de tout ça? Ou est-ce que, dans la complexité de ce que je suis, j'existe aussi autrement? Est-ce qu'il y a autre chose que tout ça? Il y a tout ça, ok. Mais est-ce qu'il y a aussi autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose de moi qui ne dépend pas du temps? Ça, pour nous occidentaux, c'est une question impensable. Parce qu'on n'a pas, pas de structure mentale pour incorporer une notion d'éternité. On en avait une. Jusque vers, elle a commencé à se détériorer, si je comprends bien, vers le 12e, 13e siècle. Et au 16e siècle, 16e, 17e, ça commençait à se détériorer grave. Et donc, on n'a plus, dans notre manière d'interpréter la vie, de cadre conceptuel qui nous permet d'imaginer le non-temps ou l'éternité. Ce n'est pas suffisamment rationnel, parce que ce n'est pas du domaine du rationnel, ce n'est pas pesable et quantifiable, ce n'est pas perceptible par les sens, et donc du coup ça n'a pas un cadre d'existence. Il faut, pour pouvoir avoir un cadre dans lequel incorporer nos expériences d'éternité, quand on fait une expérience, un moment de transe, par exemple, on peut avoir une expérience qui nous bouleverse. On peut avoir une expérience où on sent que là, il y a quelque chose de profond, mais on n'a aucun cadre pour la comprendre dans nos enseignements actuels et dans notre fonctionnement sociétal. On n'a aucun cadre pour la comprendre. Et parce qu'on n'a aucun cadre pour la comprendre, aucun espace pour lui donner du sens, elle ne prend pas sa place dans nos vies. Elle n'a pas de raison d'être et elle disparaît. Et à cette expérience, on ne donnera pas du sens. Il faut, et c'était le monde des mythes, c'était le monde des légendes, c'était les traditions de l'alchimie, c'était l'angéologie, c'était toutes les traditions spirituelles qui donnaient une histoire de l'imaginaire. Alors les fanatiques allaient dire c'est ça la réalité, ça le reste, non ? Une histoire de l'imaginaire qui créait un contexte dans lequel ces expériences pouvaient vivre. Et du coup, elles pouvaient avoir place dans notre réalité. Et donc il y a un philosophe que j'aime beaucoup et qui fait un travail extraordinaire dans ce domaine, dans le domaine de la nécessité de réintégrer l'imaginaire comme outil de connaissance, parce que l'imaginaire est devenu pour nous, dans notre culture, synonyme d'irréel. Quelque chose d'imaginaire, c'est quelque chose qui n'est pas vrai, qui est irréel. Ça aussi, c'est 16e, 17e siècle. Et lui, en fait, il s'intéresse beaucoup à la pensée de l'islam en Perse vers le 16e, 17e siècle, où eux, par contre, ont carrément une cartographie du monde imaginaire nécessaire à l'homme pour pouvoir exister et donner un sens à son existence. Parce que c'est l'imaginaire qui donne un sens, puisqu'on le disait, on se crée des identités. On imagine notre vie, on s'imagine, on se conçoit. On se conçoit d'une telle... Et il faut se concevoir d'une belle manière. D'une manière qui soit digne, qui soit belle, qui soit grande, qui soit ouverte. Donc, on a besoin de l'imaginaire pour donner un sens à qui on est. Et donc, Henri Corbin, ce philosophe que j'aime beaucoup, dit « Un monde ne peut surgir à l'être et au connaître tant qu'il n'a pas été nommé. » Ce qui vient à dire qu'on a besoin, c'est ce que je disais avant, d'une histoire qui permet d'intégrer nos expériences. On a une expérience dans toute autre chose et on est pauvre en cadre conceptuel pour l'intégrer dans notre compréhension. Et du coup, elle n'a pas sa place. Il continue, privé du mundus imaginalis, monde imaginaire, privé du mundus imaginalis, un monde réel, imaginaire. Imaginaire n'est pas l'opposé de réel dans l'islam. Privé du mundus imaginalis, donc qui est le monde des archétypes, des épopées, la connaissance imaginative n'a plus de lieu, et donc n'a plus lieu. Donc ce soir, pendant la danse, si on pouvait juste s'offrir des moments et se satisfaire des moments où on arrive à vraiment lâcher la personne, on arrive à lâcher tout intérêt pour toute pensée parce que c'est pas vers là qu'on cherche et qu'on arrive à lâcher tout et pour lâcher, on l'a pratiqué, on sait maintenant comment on fait. On peut pas lâcher quelque chose comme ça dans le vide. On ne lâche pas pour rien. On va lâcher pour amener notre attention dans le son. Dans le son au moment où il se produit. Et notre corps va répondre en temps réel au mouvement du son. Notre corps va danser sans qu'il y ait le moindre décalage avec le son. On peut voir si on peut s'autoriser à n'être plus personne. Merci pour votre écoute.